Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
France Inter, 17h06, et vous retrouvez Charline Vananecker et Alex Vizorek pour Par Jupiter.
Je vous perturbe un peu, je le sens.
Mais Alex, vous savez qui parle là?
C'est comment on en parlait juste avant,
voilà.
C'est Céline.
Moi je sais que c'est Claire,
c'est
Cagnini.
Ah, j'ai dit Cagnini.
Et voilà, vous voyez Claire comment ça c'est, voilà.
Mais... On vous aime Claire.
Pardon, ça c'est le rire de Clara Dupont-Mono. On est bien embarqué Claire.
À bientôt.
Je sens que là on est très très chaud, ça va être, pour nos auditeurs ça va être difficile à gérer, je le sens.
Je suis là,
Vous êtes là, très bien.
Je vous souhaite une excellente émission.
Vous avez envie de partir, hein, on vous ennuie un peu, non?
Ah, pas du tout.
J'ai l'impression.
Il parle comme Michel Fourniret.
Venez nous voir.
Allez,
oui,
très volontiers.
Il n'y a pas d'obligation non plus. Hein.
Vous croyez que les auditeurs, ils veulent qu'on commence l'émission ou pas?
Moi, je
m'en fous. Attendez, je vous entends pas. Ils sont derrière leur poste, ils font « Oui, on voudrait faire une émission. »
Elle est partie.
Parce que franchement, on n'est pas obligé. Hein.
C'est un bon passage d'antenne, c'est ça qui compte. Les gens aiment bien ça.
Il est 17h40 sur France Inter.
Avant, là, on est prêt. Si vous décidez de pas le faire, on le fait pas.
Ça dépend, est-ce que Claire est toujours là? Claire, vous m'entendez?
Non, on est parti.
C'est
un moment quand même contractuellement.
Et les auditeurs sont en train de partir aussi, on me signale.
Attendez, vite, on les rattrape.
Salut les amis.
Salut Alex.
Alors aujourd'hui on reçoit une formidable humoriste et comédienne, Antonia de Rendinger.
Ah super, ça me changera de vous.
Pardon?
Ça changera de vous, de votre jeu approximatif, d'avoir une bonne comédienne.
Alors figure-toi qu'elle est une très bonne mère pour moi.
Mais elle a genre 3 ans de plus que toi.
Ça n'empêche pas d'être une mère.
Elle t'a eu vachement tôt quand même.
Non mais attends, moi je l'ai vue, c'est vrai que c'est une mère exceptionnelle.
J'y comprends rien du tout à votre truc.
On a joué ensemble dans 3 hommes et un couffin, l'adaptation au théâtre.
Comme dans ses spectacles, elle jouait plein de personnages.
Comme ma mère.
Mais qu'est-ce que ta mère a à voir dans tout ça?
Mais non, elle joue une prof, une petite fille, une mère au bord d'un crise de nerfs, une italienne, une américaine.
Une belge?
Parce qu'elle joue que des accents étrangers.
Mais c'est parce que je dis une belge, quoi.
On a un accent.
Non, à ce compte-là, la Franche-Comté, c'est aussi un pays étranger.
Nous, tu vas te calmer un peu.
Est-ce qu'on peut en revenir à Antonia, s'il vous plaît?
Qui ça?
Ta mère!
Ah bah oui, formidable, elle vient pour son spectacle qui s'appelle Moi Je.
Non mais tu joues pas dedans?
Non, c'est du seul en scène.
Mais donc t'as plus de mère alors?
Si, il en a une, elle est belge.
Mais vous m'avez dit qu'elle faisait pas les Belges.
Mais Guillaume, il est temps que tu te reposes.
Ça tombe bien, c'est ma dernière chronique. Ouais. Après, je pars une semaine chez ma mère, qui fait extrêmement bien l'accent pied noir en plus.
Bonjour la France Inter. Bienvenue dans l'espace de coworking, cet endroit où l'actualité crée des synergies avec la blague. Et voici les trois informations qui vont faire l'objet de cette conf-call. Guillaume, concentrez-vous.
Oui, je suis très très concentré aujourd'hui.
Pôle emploi innove énormément. Les agences proposent diverses méthodes d'entretien d'embauche, façon The Voice, en réalité virtuelle, dans le noir ou en faisant du sport avec son conseiller. Car Pôle emploi, c'est aussi la créativité.
Sinon, vous avez déjà pensé à vendre votre corps?
Oh, mais ça va pas?
Moi, je consommerais. Allez, on se fait un petit business plan. Vous avez une camionnette?
54 Français reçoivent encore aujourd'hui une indemnité pour avoir collaboré avec l'Allemagne nazie pour services rendus en 39-45. Le gouvernement souhaiterait récupérer la liste des bénéficiaires.
Il y a forcément une amicale d'anciens nazis, ou un club, une association.
McDo met un livre dans ton Happy Meal. Une fois que tu as remis la malbouffe dans la cuvette, un peu de lecture fait le plus grand bien.
Tu sais quoi? J'offre un dessert à celui qui lit le livre de Taubira.
Lui, ses blagues se dégustent comme des nuggets.
Oh là là.
Bonjour Alex Vizorek.
J'ai presque l'impression que c'est un compliment.
C'est vrai qu'elles sont un petit peu grasses des fois.
Ça n'en est pas un. On a une belle équipe, malgré Guillaume. À 17h20, la blogueuse la plus tendance du moment, puisqu'elle nous raconte tout depuis son salon, la méthode Rudel-Kirieff. Bonjour Mélanie Bauer.
Bonjour, moi je vais vous calmer un petit peu.
C'est
aujourd'hui, je vais parler d'artistes morts.
Il y en a aussi. 17h30, celui qui est probablement devenu pédophobe en une seule journée, puisque Charline l'a obligé à emmener notre stagiaire de 3e en reportage. Bonjour Guillaume Paris.
Bonjour à tous, bonjour à tous. Je vais vous parler d'écologie, vous allez voir. J'ai rencontré donc avec notre stagiaire des Français et des Françaises de mobiliser.
Je ramasse les crottes de mon chien.
Voilà, la Greta Thunberg des motocrottes.
Et enfin, à 17h40, celle qui nous a été envoyée directement depuis le Moyen-Âge, mais qui ne veut pas y retourner sans une robe Gucci, c'est Clara Dupont-Mono. Bonjour.
Bonjour Alex, bonsoir.
De quoi on va parler?
D'artistes morts.
Aussi, très bien. Belle thématique aujourd'hui.
Restez, il est à peine 17h11. Heureusement, Voici celle qui va faire jaser l'open space. Je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Vous êtes...
Je suis Antonia de Randinger.
Oh, ah bah voilà,
c'est vous.
Elle est vivante.
Tellement plus classe
Alex
que Vanunaker.
Alex
que du pour mon nom.
C'est beau. Antonia de Randinger, bienvenue.
Merci beaucoup.
Salle noble, au bûcher. Ah, excusez-moi.
Votre spectacle s'intitule « Moi-je » et vous êtes en tournée dans toute la France. On donnera quelques dates, bien sûr, notamment le 29 et 30 mars à La Cigale à Paris. On cite toujours Paris, mais c'est une très grande salle, La Cigale, c'est très très chouette. Et puis vous partez aussi en Belgique, etc. On donnera plein de dates comme Saint-Raphaël, Nancy ou Toulon. Alex Vizorek, oui. Je vous laisse interviewer Antonia de Randinger.
Alors, la presse féminine, elle, dit de vous la future Valérie Lemercier. En toute immodestie, est-ce que c'est une bonne définition?
Je sais pas, j'aimerais surtout être l'actuelle Antonia de Randinger. Ce serait déjà pas mal.
Oui, donc c'est en toute immodestie, quoi, votre
voilà.
réponse.
Non, mais,
pour parler du style, c'est ça, je pense, qu'il voulait dire l'efficacité des personnages et du style.
Voilà, je pense que c'est aussi ce pourquoi on s'était retrouvé sur ce projet de Trois hommes et un couffin. C'est justement le côté polymorphe. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est vrai que dans une période à laquelle tout le monde fait beaucoup de stand-up, moi, je reviens un peu sur le théâtre à papa, des trucs un peu à la Jacqueline Maillan et tout ça. Donc, j'aime
pourquoi
bien
vous dites théâtre à papa? Parce que c'est pas parce que vous faites des personnages que ce n'est pas contemporain, ce que vous racontez.
Oui,
à
voilà.
travers eux.
Mais tout à fait. Mais de toute façon, j'ai envie de dire, même, je suis pas la seule à le faire. Non. Il y a quand même beaucoup d'artistes. C'est
Alex
vrai qu'on
Lutz,
a
par exemple.
Alex Lutz ou même Constance que vous avez tout chez vous qui fait du perso aussi. Des gens comme Julie Ferrier ou comme Albert Dupontel. C'est un peu leur marque de fabrication. Et moi, je me situe plus là-dedans, mais aussi parce que c'est mon école. Moi, je viens de l'impro, et c'est vrai qu'en improvisation, on nous apprend à travailler le personnage, la construction des histoires qu'on raconte, l'imaginaire, et puis la mise en scène en même temps. Donc, on cumule un peu les trois casquettes.
C'est aussi comme ça que vous bossez, parce que dans vos références, il y a Cobert, il allume sa caméra et puis il fait le guignol devant en personnage et après il voit ce qui était drôle et il en fait un vrai texte qu'il rejoue après. C'est comme ça que vous bossez quand vous faites par exemple la vieille prof de SVT, parce que vous êtes assez forte pour faire des personnages sans âge. Je sais, vous avez joué ma mère.
Ce qui est totalement improbable quand on nous voit côte à côte, j'ai l'air d'être votre fille.
Mais absolument, d'où le talent. Mais donc c'est comme ça que vous bossez, vous allumez votre caméra, vous dites je suis une vieille prof de SVT et je me lance.
Alors j'avais fait ça la première fois sur mon premier spectacle, j'avais fait ça avec une caméra, puis je trouvais ça tellement atroce d'après ça dérocher et regarder et me dire mon Dieu comme ce n'est pas drôle.
Alors Alex du coup, il fait pareil mais il garde tout comme depuis 10
ans. Mais je l'ai vu et le pire c'est que ça marche.
Ça marche quoi?
Ce que tu fais.
Oui, il faut pas le dire.
Voilà et maintenant.
Donc vous avez un œil extérieur alors. C'est ça.
Ce que je fais maintenant avec le processus créatif, n'est-ce pas, du spectacle, c'est que je prends 3-4 soirées dans un théâtre dans lequel je sais que j'ai un public un peu acquis, le public strasbourgeois pour ne pas le nommer, et que je prends ces 3 soirs, je filme les soirées d'improvisation.
Et vous payez les gens, alors c'est vous qui c'est l'inverse.
Non, ils payent plus cher que d'habitude parce qu'ils savent que c'est un spectacle unique et qu'il n'y en aura pas d'autres. Et après ça, quand je dérush, du coup, là, je sais vraiment les punchlines quand ça marche, etc. Et après, en fait, je fais un peu des personnages hybrides. Je me sers un petit peu de ce qui va se passer sur scène et je me rends compte que ce qui a marché en impro ne remarchera pas forcément une fois que ça a été écrit, mais que si on ajoute une petite dose de d'inattendu, bah, je prends l'exemple de la prof de SVT. La première fois que je l'avais fait en impro, le sketch est quasiment le même en termes de texte, mais en impro, le personnage était un petit peu, il avait l'air un petit peu comme ça, qui parlait un petit peu aux élèves de façon un petit peu comme ça, un peu dur, et puis un petit peu jeune. Et puis je me suis rendu compte que si je prenais le même personnage qui disait, voilà, moi je suis votre prof de SVT, science et vie de la terre, mais surtout science et vie de la tub, et que je le faisais en faisant, mes enfants, bienvenue à tous à votre cours de SVT, science et vie de la terre, certes, mais surtout science et vie de la tub.
Et c'est plus drôle le décalage.
Et ben ça marchait plus qu'en faisant un personnage jeune. Voilà.
Clara Dupont-Moreau, vous vouliez poser une question avant de mourir de rire.
Respirez, Clara.
Vous
respirez.
Êtes très drôle.
Non. Alors attendez. Y a
merde,
quand même...
la carrière est terminée. C'est...
Non, alors là, pour moi, c'est une consécration.
Ah. Merci. Il y a eu une fascination depuis 9h ce matin dans les bureaux autour de votre prénom et patronyme. Alors, ça nous fait complètement rêver. Antonia de Randinger. Moi, je suis dans Stendhal. Mais d'où ça vient, Antonia? Vieille aristocratie alsacienne?
Je suis une Espagnole qui a été adoptée par des anciens nazis. Hein.
Sujet
2. On va pas atteindre le point Godwin tout de suite. Non, en fait, concrètement, moi, j'ai une ancêtre qui s'appelait Antonia dans ma famille du côté de maman. Et puis, du côté de papa, c'est de Randinger. C'est un nom alsacien assez connu, assez courant. En général, c'est tout attaché. Mais nous, ça s'est détaché à un moment de l'histoire que je n'identifie pas tout à fait. Puis, ça se rattachera peut-être un jour. Mais en fait, il paraît qu'on s'appelle de Randinger en deux mots parce qu'on a introduit le houblon en Alsace. Voilà.
Ça, c'est chic.
Il paraîtrait. Ça, je pense que
français bien pour vous. Hein,
oui, oui. Vous entendez qu'elle fait très bien les accents. Il y a un sketch complet qui s'appelle Plaisir sans frontières, où des femmes doivent raconter leur orgasme, et c'est des femmes de divers nationalités. Voilà. Qui font chacune.
C'est pas du tout cliché, hein, évidemment.
Vous
faites la belge.
Alors je fais la belge, mais j'oserais pas faire la belge ici parce que j'ai l'impression que c'est un peu tabou quand même. Et puis je vous entends. Et moi, le seul truc que je remarque, c'est que vous dites les huit. Ça, j'adore. Ouais. Vous entendre dire huit.
Merci Antonia. Enfin une.
C'est la petite touche d'exotisme.
Elle fait le belge, mais sans en faire trop.
Oui, c'est vrai. Très nuancé. Vous avez
pas du vieux Coluche, voilà, pour parler de gens qui ratent l'accent.
Les artistes morts.
La nuance. Antonia de Randinger est bien sûr sur scène et en tournée. Donc vous passerez par la Belgique. J'ai vu une date à Bastogne le 2 avril. Ensuite, le 4 avril, vous serez à Belfort. Vous serez... Alors, je vais m'aventurer à le dire.
Le 4 mai à Nancy, je crois, et je suis à Saint-Amand-les-Eaux le 2, là, tout bientôt.
Ah oui, très bien.
Il va y avoir une ville compliquée.
Alors, entre Valenciennes et Oberhausbergen. Le 6 avril.
Bien
sûr. Vous passez par la Suisse aussi.
Les fameux indépendantistes basques.
Et Plougastel le 15 mai, en Bretagne.
Patrie de la fraise.
Antonia de Randinger est en notre compagnie jusqu'à 18h. Oui, il y a Clara, il y a des mouches, il y a Meurice, il y a Boer.
Sans lien.
Qu'est-ce que c'est?
Oui. Ah, vous me reconnaissez? Ah, c'est moi.
On adore Zobi la mouche, c'est bon de réentendre ça. Non, c'est ce que j'aime tellement, je m'emballe. Nous les avons reçus récemment, si vous voulez réécouter.
Ça que vous vouliez dire.
Ouais, oui. Avec une chronique d'ailleurs.
De Mélanie Bauer.
Ouais, exactement. C'est juste, qui est justement là.
Mais que ah, ben oui, c'est Mélanie Bauer.
Et qui
va nous parler d'un artiste décédé.
Oui, mais qui?
Mais qui d'autre? Qui d'autre est là?
Un artiste vivant, malheureusement.
Non, mais c'est pas ça. Qui d'autre est autour de la table?
Certaines personnes, Guillaume Meurice voilà. Et merci. Clara Dupont-Moll.
Bonsoir.
Voilà. Et l'actualité.
Là, je pense que plus personne n'est là. Ça, c'est... Antonia, on est
désolé. C'est gentil d'avoir choisi mon jour.
Vraiment, désolé. Le passage d'antenne, déjà, c'était très aléatoire.
C'est là, ça va se voir dans les cours. Hein,
mais dans la formation, là,
on va récupérer des gens.
Tout ça est quand même beaucoup une tempête dans un verre d'eau.
Le journal de presque 17h17.
Je ne sais pas nager, je peux
te voir. Et on commence par les titres.
Au Vietnam, les négociations entre Donald Trump et Kim Jong-un se sont terminées sur un échec.
Oui, franchement, j'ai plus qu'une seule façon de régler ça, un octogone, sans règles et sans arbitre.
Demain, le 1er mars, le tabac va connaître une nouvelle hausse.
Oui, après les gilets jaunes, il va falloir s'attendre à voir défiler dans les rues un nouveau mouvement, les poumons noirs.
Évidemment,
oui. Oui, d'ailleurs, le paquet de clopes, bientôt il y aura écrit dessus, fumer provoque des interdits bancaires.
Et puis les brèves.
Et oui, dès demain, normalement, il y aura une hausse des brèves aussi, apparemment.
Ah. Super, c'est une bonne nouvelle.
Alors, encore annoncé précisément, mais ouais. Par une éphéméride.
Oui, aujourd'hui c'est la journée internationale des maladies rares.
Et oui, on a tous une pensée pour Thomas Thévenoud, atteint de cette maladie trop méconnue, la phobie administrative.
Passons aux élections européennes. Oui. Inspirée par LR, La République En Marche réfléchit à une liste portée par plusieurs noms.
Oui, autre lecture de cette information. Deux points, incapable de trouver une personnalité politique suffisamment rassembleuse et crédible auprès des Français, La République En Marche va également se résoudre à utiliser trois têtes de liste.
Michèle Alliot-Marie, elle a été mise en examen pour prise illégale d'intérêt dans une enquête sur des associations à Saint-Jean-de-Luz.
Et ben, comme quoi le Parti Républicain évolue. Et
hein ben, comment si. Ben non, mais au contraire, ils sont toujours coupables des mêmes pratiques. Enfin,
oui, mais après Fillon, Juppé, Sarkozy et Balkany, ils s'efforcent de respecter la parité maintenant. Et ça, il faut encourager. Ça, c'est bien.
Ouais, justice, toujours. Oui. Pour le moment, a lieu à Bruxelles le procès de Mehdi Nemmouch, accusé d'avoir perpétré un attentat antisémite contre le musée juif.
Et oui, pour assurer sa défense, il peut compter notamment sur l'avocat Sébastien Courtois. Un axe de défense audacieux, puisque ce dernier a déclaré...
Je cite, « Nemmouch n'est pas antisémite, il a acheté des chaussures Calvin Klein. »
Véridique, c'était aujourd'hui. Donc voilà, un avocat qui a étudié le droit à l'université Nadine Morano.
Oui, oui. Allons à Alger, où une dizaine de journalistes ont été arrêtés lors d'un sit-in contre la censure.
Oui, ils sont durs en Algérie, parce que ça fait quand même 15 ans que leur président fait un sit-in et il n'a toujours pas été arrêté.
En France, à présent, selon une étude, il faut 6 générations pour qu'une personne parmi les plus pauvres atteigne le revenu moyen.
Ouais, et ben je crois qu'au lieu d'un hochet, on peut directement offrir un gilet jaune aux nouveau-nés.
6 générations,
ouais,
c'est super.
Ben oui, c'est la carrière de Michel Drucker, à peu près. Ça va donner une...
Santé. Les pharmaciens pourraient bientôt être autorisés à délivrer certains médicaments sans ordonnance.
Ça existe déjà et ça s'appelle le Tour de France.
People, oui. Dans GQ, Franck Dubosc a déclaré « Je me suis embarqué dans quelque chose que je ne maîtrisais pas. »
Oui, le cinéma.
Bah non, ah non, il parle des gilets jaunes.
Ah, les gilets jaunes, bah oui. Boulette, oh là
là. Oh, les brèves.
Et des brèves.
La méchanceté de cette
femme. Oh là là, une bonne blague devenue. Amnésique et malade, un Américain condamné à mort a obtenu un sursis, ce qu'on appelle la méthode Jacques Chirac entre nous.
Allez, la dernière.
Et la dernière, un whisky Lidl à 15,80€. A décroché la palme du meilleur whisky écossais au monde. Et entre nous, c'est la deuxième fois, au moins en un an, que quelque chose au rabais remporte un titre mondial.
Je vois pas
par rapport à la Coupe du Monde de football.
On n'a pas la référence.
C'est la France qui a gagné.
Non.
Alors que c'était au rabais.
Et alors 17h25 sur France Inter. Antonia de Randinger est en notre compagnie. Son seul en scène s'appelle Moi Je et elle est en tournée dans toute la France. On va vous soumettre ce premier sujet.
Ah oui.
Ça vous dirait de passer votre entretien d'embauche dans le noir? C'est validé par Pôle emploi, oui, qui lance de nouvelles méthodes après avoir testé les entretiens façon The Voice, donc avec les sièges qui se retournent, et les casques à réalité virtuelle et en 3D. Il est également possible d'effectuer son entretien dans un stade en pratiquant un sport avec son conseiller. C'est la créativité de Pôle emploi actée.
Et bon voilà, j'ai fini mes études et j'entre dans la vie active. Donc je vais voir ce que vous avez à me proposer comme travail.
Bon, vous avez une attestation de domicile?
Non, puisque j'habite chez une commune, mais j'ai mon adresse email si vous voulez.
Il faut un domicile.
Ouais, ben, moi, on ne veut pas me donner de boulot tant que j'ai pas d'appart, et on ne veut pas me donner d'appart tant que j'ai pas de boulot, donc il va falloir peut-être vous entendre entre vous, les mecs.
Oui, bon, c'est comme ça, c'est pas moi qui fais les règlements. Puis je connais bien l'ordinateur, ça marchera pas si vous n'avez pas de domicile. Avec la situation actuelle, on peut pas se permettre de donner du boulot à ceux qui n'offrent pas toutes les garanties.
Mais les garanties de quoi?
Mais les garanties de vouloir gagner de l'argent. Réfléchissez.
Bon, d'accord. Très bien. Eh ben. Bah puisque c'est comme ça, moi je pars en vacances. Vous n'êtes pas prête de me revoir.
La fille du 14 juillet, le film d'Antonin Perejatko. Alors, Antonia de Randinger, toutes ces proposition de Pôle emploi, donc c'est-à-dire l'entretien d'embauche dans le noir, c'est pour pas être influencé par le physique. Idem pour The Voice, se retourner, mais on transforme l'entretien en jeu. Il y a aussi le casque à réalité virtuelle, c'est tout à fait...
Ça, j'en avais pas entendu parler.
Et le sport.
Ouais, c'est bien le sport.
Qui discrimine pas du tout les gens, hein, c'est bien clair. Je fais du sport avec ton conseiller de Pôle emploi.
C'est ce que j'allais vous demander. Vous le sentez bien, vous, l'entretien en legging ou en body?
Alors, moi, d'une manière générale, je ne sens pas grand-chose en legging et en body. Hein, entretien d'embauche ou même du sport, j'ai envie de dire. Après, moi, je trouve ça... Enfin, je me dis que c'est quand même dramatique d'être obligé d'en passer par des mesures comme ça, comme le CV anonyme. Parce que finalement, l'effet du CV anonyme, ça a été que les gens qui envoyaient un CV anonyme n'étaient que des gens qui étaient potentiellement discriminés. Donc, ils étaient de toute façon discriminés quand ils envoyaient un CV anonyme. Parce qu'on se disait, il n'y aurait pas un arabe là derrière quand même, ce serait dommage. Voilà, moi, je trouve ça triste. Après, je trouve intéressant cette idée du noir, d'une manière générale. L'idée d'être plongé dans le noir, enfin, je sais pas, surtout pour des entretiens d'embauche dans le spectacle, je me dis qu'il y a peut-être des ouvertures, des choses intéressantes.
Anna Mougladis aurait jamais eu de boulot dans le noir, c'était juste sa voix.
Quoi?
Parce qu'elle a une voix très très rauque comme ça, machin.
Bah, camionneur, direct.
Je ne sais pas.
Non, au contraire.
Non, mais voilà, je trouve que, ça fait un peu touche-pipi quand même. J'ai un truc un petit peu bizarre.
Non, alors, l'entretien d'embauche, c'est quelque chose de stressant, de pas forcément agréable. Et donc, il y a sans doute une idée de dédramatiser la chose. Peut-être.
Dans le noir.
Ça, le jeu. Mais justement, le noir.
Ça ne dédramatise pas des
masses. Bah oui, le noir, c'est plus angoissant, non?
Oui, moi, mais je reviens à ça. Je trouve que c'est terrible, en fait, qu'on soit obligé de mettre en place. Des mesures telles que celle-là, parce que ça renvoie à quelque chose de grave sur l'état de notre pays, je trouve. Mm-hmm. Parce que si on est obligé de rendre tout le monde anonyme plutôt que de prendre en compte les compétences des gens, j'ai l'impression que c'est vraiment aussi un peu franco-français. Je pense à cette histoire de Décathlon là, par rapport
au hijab de course.
J'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre que comment les femmes s'habillent aujourd'hui?
Mais
en Angleterre, par exemple, je suis pas sûre que ce genre de mesures soit obligatoire ou nécessaire. J'ai l'impression que le communautarisme est vécu comme quelque chose, ou les différences, d'une manière générale, sont vécues comme quelque chose de plutôt positif. Et le fait qu'on essaie de les gommer à travers le noir, je pense que c'est une bonne initiative si elle est nécessaire, mais je la trouve grave, en fait.
Disons que ces méthodes trahissent
un état de notre société qui, pour moi,
est... Oui, le fait qu'ils soient un peu perdus et qu'ils ne savent plus quoi faire pour... Enfin, c'est ça que ça...
Pour recruter.
Ça trahit, en tout cas.
Oui, tout à fait, je suis d'accord. Ouais. Enfin, c'est mon avis, en tout cas. Je le partage.
Ça donne comme un terreau à sketch. Tous ces trucs-là, on se dit, il y a du personnage à faire.
Il y a du personnage. Mais d'ailleurs, il y a des spectacles d'impro dans le noir, complètement, où le public est dans le noir et tout le monde est plongé entièrement dans le noir. Ça raconte aussi quelque chose. C'est vrai que la voix, moi qui m'en sers beaucoup en spectacle, je trouve que la voix, c'est un vecteur aussi intéressant, quoi. Et puis, c'est vrai que, bon, on imagine ces entretiens dans le noir, si jamais la personne a un accent et que l'accent peut être discriminant, qu'est-ce qu'on va faire après? On va mettre des trucs pour déformer la voix et on va parler comme ça.
Bonjour, je m'appelle. Je viens.
Je trouve ça très
bien. Vous le faites bien, donc.
Vous déformez vachement bien.
J'aimerais trop arriver à le faire, vraiment. Là.
Antonia de Randinger. À côté de vous, Mélanie Boer vient nous parler musique.
Oui, parce que dans le noir, il y a aussi les morts.
Ça va bien en ce moment, sinon.
Bonsoir, Saint-Étienne. Alors, cela ne vous a sûrement pas échappé. Cette semaine, nous avons appris la mort du chanteur de Tok Tok, Marc Hollis, légende de la pop avec sa tête d'anglais et ses petits bonnets, compositeur de magnifiques chansons en solo, restées malheureusement confidentielles comme toutes les grandes chansons. Il s'est éteint à 64 ans d'une courte maladie, dixit Le Monde, un décès accompagné de sa désormais traditionnelle traînée de petits pets sur la toile. Rip, rip, rip.
La pub pour la 205, c'est dit Antonia,
je capte.
Mais c'est d'une autre mort dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, passée un peu plus inaperçue, celle de la chanteuse Jackie Shane, partie en plein sommeil à 78 ans dans sa maison de Nashville. Jackie Shane est une icône de la soul music américaine. Bon, je vous resitue le contexte. Jackie Shane, elle vient de Nashville, elle est née garçon, mais dès l'âge de 13 ans, elle annonce à sa mère qu'elle sera femme. Alors c'est difficile aujourd'hui d'imaginer la difficulté que ça a pu représenter pour elle rêve de grandir durant les années 40 et 50 aux États-Unis en étant noire et transgenre. Pourtant, elle se maquille dès le collège et racontera que c'était plus difficile d'être noire que trans durant son adolescence. Elle partira finalement chanter à Toronto avec le groupe de Frank Motley and the Motley Crew. The best things in life are free. You can give them to the birds and bees. I need some money. Sublime voix androgyne, Jackie Shane est la première en 1962 à utiliser le mot « gay » dans une chanson, une adaptation de « Any Other Way » de William Bell, où elle change les paroles très subtilement pour chanter « Dis-leur que je suis heureuse, dis-leur que je suis gay ». Ce titre deviendra son plus grand succès, classé numéro 2 des charts au Canada. Any other way. Mais l'histoire et le mystère ne s'arrêtent pas là. Durant les 70s, Jackie Shane retourne aux États-Unis pour s'occuper de sa mère, alors que sa carrière stagne doucement. Elle a déjà refusé de signer avec la Motown. Cette fois, elle refuse de jouer avec le funkadelic de George Clinton et disparaît dans l'anonymat durant 40 ans. Au point que les rumeurs les plus folles se propagent sur son histoire. Elle serait morte assassinée, elle se serait suicidée. Et elle réapparaît finalement en 2017 avec un coffret de réédition de ses chansons devenues des classiques, Any Other Way, nominé aux Grammys cette année, meilleur album historique. Un disque qui s'ouvre par Stick and Stones Won't Break My Bones, pionnière et icône des droits civiques et de la cause LGBT aux États-Unis. Bah, ça valait le coup de parler de sa vie quand même. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bother me. People talking, trying to break us up when they know that I love you so. Now I don't care what the people they say, I'll never, never let you go. So I've been abused deep down in my heart. I've been abused, and I've been scarred. People talking, trying to break us up. I said they scandalize in my name. Shame anything just to make me feel bad, and anything to make me shame. Jackie Shane, Another Way, c'est donc le coffret qui regroupe toutes ses chansons et qu'on peut bien évidemment se procurer dans les meilleures crèmeries.
Elle est donc nommée au Grammy.
Exactement, et bon,
elle y sera pas, quoi.
On lui enverra des petits messages.
Merci Mélanie Boer. Non, c'était très beau. Moi, je connaissais pas, magnifique découverte.
Oui, je vous invite à aller voir les photos. C'était une très très belle femme, incroyable personnage.
Merci beaucoup Mélanie Boer. C'est Antonia de Rendinger qui nous accompagne aujourd'hui. Tout va bien, Antonia?
Mais tout va très bien.
Alors,
très bien.
Vous êtes en tournée, bien sûr. Ah, vous faites la première partie des Chevaliers du Fiel à l'Olympia. Du premier au 9 mars,
consécration pour eux.
Le 2 mars, vous serez à Saint-Amand-les-Eaux.
Oui.
Et le 8 mars, pour la journée de la femme, vous serez à Gland. C'est ça.
Ça, c'est drôle.
Ça, elle l'avait bien repéré depuis le début. Voilà. Elle s'est dit, je vais choisi au milieu de l'émission.
Vous connaissez Vizorek, non?
Non, c'est surtout Guillaume Meurice qui me connaît trop, trop bien. À 17h36 sur France Inter. Guillaume Meurice, c'est à vous.
Non. Non, j'ai pas envie de bosser aujourd'hui. Là, je suis en vacances dans une demi-heure, donc c'est bon. Ça me
ok, alors on passe au sujet 2.
Non. Attendez, j'ai fait bosser la gamine. Ouais. On a une stagiaire de 3e là, depuis le début de la semaine, elle glande rien. Allez, vas-y, Juliette.
Bonjour, donc je suis en observation depuis le début de la semaine et je vais faire la chronique de Guillaume. Donc. Je suis donc allée interroger des vieux racistes de droite homophobes.
Attends. Non, mais révèle pas tous les trucs d'un coup, là.
Oui, bah, tu critiques toujours ces gens-là, mais si c'était pas là, tu serais déjà au chômage.
Je crois qu'elle a un peu trop bien observé depuis le début de la semaine, là, Juliette.
En plus, tu manges des pâtes à la crème de truffe au resto.
Non, alors attends, putain, ça part en couille. Ça n'intéresse pas les gens. Non, attendez, ça n'intéresse personne. Alors, pour une chronique, Juliette, il te faut un vrai sujet.
Bah, moi, je voulais faire l'écologie.
Oh putain, l'écologie, non, les gens s'en foutent.
Bah, non, pas les gens de mon âge, justement. On manifeste toutes les semaines. C'est notre génération qui va tout prendre.
Bon, bah vas-y, Juliette Binoche. Alors.
T'as un problème, le Gérard Gir du pauvre.
Le Richard Gir, déjà, respecte un peu les prénoms. Allez, ça va être long. Allez, enchaîne, Juliette, allez.
Donc, comme nous sommes confrontés à une crise écologique majeure, je suis allée interroger les générations précédentes sur leurs responsabilités. Par exemple, ce monsieur, est-ce qu'il est écolo?
Oui et non.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, je ne fais pas correctement mes tris de déchets, par exemple.
Par exemple, ma génération, on va avoir une planète où on voit les glaciers fondre, les espèces d'animaux disparaître. Est-ce que vous culpabilisez de nous laisser une planète comme ça?
Non, pas du tout.
Pourquoi?
C'est pas forcément qu'à moi de faire le boulot.
Est-ce que vous pensez que si tout le monde se disait c'est pas à mon échelle que je vais changer quelque chose, et ce serait encore pire?
Je sais pas quoi dire.
Putain, attendez, je crois que j'ai créé une sorte de Élise Lucet, Julien.
Eh, tu te calmes, c'est ma chronique, ok?
Ok, putain, t'es vachement directif quand même, Julien.
C'est comme ça, on n'a pas le temps. C'est la Startup Nation. On est à l'époque de Macron et comme disait Goebbels.
Oh là, wow! Ah non, alors là, attendez, parce que je suis pas sûr, le lien nazi-Macron.
Mais pourquoi?
Non, j'éviterai. Si
voilà, ils auraient qu'à essayer, a priori, c'est non.
Non, ils n'ont pas essayé, j'ai pas compris.
Bon, allez, continue. Julien.
Et cet autre monsieur, est-ce qu'il se sent coupable de la crise climatique?
Pas plus qu'un autre. Je le regrette pour mes petites filles.
Oui ou non?
Je ne peux pas répondre aussi affirmatif oui ou non.
Oui, non ou entre les deux?
Je le déplore et je regrette pour les générations futures.
Du coup, c'est entre les deux?
Oui, entre les deux, on va dire ça.
Putain, mais t'es chiante en fait!
Mais oui, je t'ai observé.
Non, Juliette, là, c'est des méthodes staliniennes.
Mais oui, je t'ai observé, je te dis.
Bon, allez, continue.
Bon, allons demander à une dame.
Je ne suis pas très écolo, honnêtement. Alors, donc, je ne suis pas du tout pour. Tous les grands trucs de la planète et tout ça, non. Je vais en Bretagne, je me baigne dans une eau très froide et partant de canicule est à 18, c'est génial, hein.
C'est génial, il faut attendre que l'eau soit à 37 à Brest pour que les gens ils se rendent compte de l'urgence.
Non mais attends, t'es dur parce que cette dame c'est peut-être une climatologue, déjà. Toi t'y connais rien, t'as 13 ans, tu fais quoi?
Okay. Toi tu fais quoi pour le climat?
Moi je fais quoi pour le climat? Déjà j'ai un shampoing Ushuaïa, donc je connais un peu plus que toi. Et j'ai un mug François de Rugy Forever, très joli, c'est lui qui me l'a donné.
Super, je suis trop jaloux.
Ouais, enfin, en tout cas la dame c'est peut-être une experte, c'est ça que je veux dire.
Une experte, t'es sûre de ça? Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'elle y connaît en climat?
Je n'y connais rien en trucs terrasse, machin, les réchauffements climatiques et tout ça. Je trouve que c'est normal. Le monde est de plus en plus peuplé. Peut-être qu'on ira voir Mars et ça va un peu dégager des gens sur Terre et ils iront polluer Mars.
Bonne nouvelle. Et si on allait emmerder les martiens?
Je me suis trompé. C'était pas une climatologue, mais c'est peut-être une astrophysicienne.
Ouais. Oui, excuse-moi, mais elle a autant de chances de devenir astrophysicienne que Clara Dupont-Moyeau d'avoir le prix Goncourt.
C'est excellent. Alors là, je dis oui. Ah ben, elle progresse, hein, quand même, Juju. C'est bien, je suis contente. T'auras une bonne note. Continue.
Allons voir quelqu'un d'autre. Est-ce que par hasard, il se sentirait concerné par le réchauffement climatique?
Non.
Vous culpabilisez pas que si jamais, par exemple, vous avez des enfants ou des petits-enfants qui ne savent jamais ce que c'est un ours polaire puisque l'espèce aura disparu à cause du réchauffement climatique?
Déjà j'ai pas d'enfants pour l'instant et pas de petits-enfants, donc c'est vrai que je me pose pas la question et puis c'est pas grave, je les emmènerai voir les dauphins à la place des ours polaires.
Et voilà une solution concrète, voilà le génie. Il y a plus d'ours polaires, bam, on va voir les dauphins.
T'as fini de te moquer des gens là?
Non, j'ai pas fini, j'étais bien observée.
Et alors?
Une certaine Edith, ça te dirait quelque chose?
Ah putain, Edith l'esthéticienne?
Oui, tu sais bien, celle que tu vas voir quand t'as pas d'idée.
Wow, révèle pas tous les trucs, j'ai dit. Quel rapport avec l'écologie, Edith?
Mais parce qu'elle est écolo, Edith, elle recycle.
Regarde, tout ça, mes bouteilles, mais qu'est-ce faire? Le verre, n'importe comment, le verre, ça pollue pas. Ça se recycle, le verre.
Donc vous triez.
Du papier avec, je crois, c'est ça, ça se recycle. Donc, du papier avec, non? J'ai pas une connerie, là? faut me couper quand je dis des trucs.
Comment est-ce que vous faites du papier avec du verre? Parce qu'on aimerait bien savoir.
J'en sais rien, parce que c'est les connards qui écrivent ça dans, dans la presse, c'est pas moi. Hein.
Voilà, bon, on ira voir les connards de la presse. Voilà, merci Edith. Ça y est, t'as fini Juliette?
Non, pas tout à fait. J'avais une petite dernière question pour Edith. Alors, est-ce que vous pensez pas qu'en fait, Johnny, oui, justement, il était pas très écolo dans l'âme, parce qu'on sait qu'il aime beaucoup les grosses motos, et à mon avis, ces motos, elles n'étaient pas vraiment électriques, quoi.
Non, je sais, c'est exact, les grosses motos, les bateaux, les gros, il y a eu des yachts, les voitures, c'était que des grosses bagnoles. Oui, je suis d'accord, c'était Jojo, il n'y a pas que lui, hein.
Non, et c'est bien ça le problème, il n'y a pas que lui, il y a toute la lâcheté des politiques, des industriels, et même des citoyens, depuis des dizaines d'années. Et parce que, vu le réchauffement climatique, pour attraper vos conneries, ça va être chaud.
Merci Juliette.
Au chômage.
Ouais, c'est clair. Sur Twitter, recyclage. Qui nous dit Juliette n'est pas une stagiaire, c'est la fille cachée de Charline Van Acker et Guillaume Meurice. Et effectivement, je peux pas vous assurer le contraire.
On peut pas en dire plus.
Bravo Juliette, c'était la première fois que tu faisais de la radio.
Absolument.
Voilà, donc tu passes ton stage de troisième chez nous à part Jupiter. C'est ça. Et Guillaume Meurice t'a emmené ce matin, il t'a tout appris en une journée.
C'est ça.
J'ai pas eu besoin de beaucoup lui apprendre.
Félicitations Juliette. Pour un premier coup, c'est un coup de maître.
Il t'emmène à la sortie de chez Areva ou des trucs comme ça pour rencontrer.
Non, on a été faire le marché dans le 16e, on a été se balader.
On salue chez toi en Vendée, toute ta classe et ton école à Saint-Hilaire de Rillé en Vendée.
C'est ça.
Exploitation de mineurs donc. Hein.
Et ça donne des merci après, Juliette et Guillaume. 17h42 sur France Inter, notre invitée, c'est Antonia de Randinger qui nous accompagne, qui est en tournée dans toute la France pour son spectacle Moi Je. Et vous êtes alsacienne.
Oui, tout
alors
tout
on a choisi un sujet spécial.
Je sens que vous prenez une pente très glissante là.
Non, vous avez compris que c'était glissant depuis le début. En France, 54 personnes touchent encore une pension pour collaboration avec l'Allemagne nazie, pour service rendu à l'armée en 39-45, soldats ou actuellement veuves de guerre. En tout cas, ils sont encore 2000 dans toute l'Europe à toucher cette pension que le Parlement belge vient de supprimer.
Ils sont beaux, ils sont grands, nos gentils occupants. Nos amis les Allemands, rigolos, rassurants, on a choisi notre camp. Nos amis les Allemands.
C'est la folle histoire de Max et Léon, le film du Palma Show. Voilà, et on en salue évidemment toute l'Alsace, on vous taquine, on vous embrasse. C'est juste qu'il y a le...
Et on espère que cette fois vous resterez longtemps avec nous.
Non, c'est juste qu'il y a la question des malgré nous qui va se poser pendant le sujet, évidemment. Alors, d'abord, au départ, quand on apprend qu'il y a encore 54 personnes en France... et 2000 personnes dans toute l'Europe qui touchent encore une pension décidée par l'Allemagne nazie et qu'ils touchent toujours. On a envie de croire au départ à un sketch, Antonia.
Mais oui, on a envie de croire. Mais d'une manière générale, on a souvent envie de croire quand on écoute les informations.
C'est vrai. Donc il y a à la fois ce côté qui peut paraître sketchable, je dirais, mais très choquant aussi.
Mais c'est combien d'argent concrètement?
Ah, ils bonne question. J'ai pas vu le montant.
Ça peut aller jusqu'à 1300 euros par mois.
Ah ouais, quand même.
Alors, sont exclus les ex-membres de la SS. Ouais.
Bon, ils sont discriminants.
Et toute personne condamnée pour crime de guerre.
D'accord.
Voilà.
Et est-ce que ces gens ont passé des entretiens dans le noir avant de toucher?
Ça, je ne sais pas.
Mais, par exemple, les malgré nous, ça pose la question. Donc, on rappelle les malgré nous, ce sont les Alsaciens qui ont été enrôlés, donc bien malgré eux.
Pendant la Deuxième Guerre, étaient souvent très jeunes et qui étaient menacés, leur famille était menacée de violence si jamais ils n'acceptaient pas de venir faire la guerre.
Et puis, se faisait zigouiller s'ils n'y allaient pas.
Voilà, et puis il y en a qui sont rentrés, même qui sont partis sur le front russe et qui sont rentrés chez eux dans les années 50. Alors moi, ce que je trouve par rapport à ce sujet-là, c'est que je trouve assez difficile de se prononcer quand on n'a pas de détails sur effectivement le profil de tous ces gens-là, parce que c'est une époque qui est un peu lointaine déjà maintenant, et je sais pas du tout moi qui ça concerne concrètement.
Oui, ça mérite de regarder au cas par cas.
Voilà, parce que je trouve qu'on s'emporte très très vite sur des sujets comme celui-là, comme sur les sujets. Voilà. Et je trouve ça délicat de se prononcer parce que d'abord, moi je ne sais rien du tout du profil de ces gens. Est-ce qu'ils ont
a priori, c'est quand même assez scandaleux
de toute façon.
Alors il y a deux options. Donc par exemple, le Parlement belge a décidé le 19 février de supprimer cette pension. La secrétaire d'État en France ne s'est pas prononcée sur une interdiction de ces versements, donc elle est un peu plus prudente, elle est un peu sur votre ligne. Nous avons de bonnes relations avec l'Allemagne, il faut que nous prenions le temps, dit-elle. En tout cas, c'est l'occasion de se familiariser avec le nom de la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, dont le nom apparaît à la faveur de ce sujet.
Qui est contente, à mon avis.
Alors, l'intitulé de la prime, telle qu'elle était définie par Adolf Hitler, hein, qui est donc toujours en vigueur, c'était fidélité, loyauté et obéissance.
C'est ça qui est choquant.
Eh bien oui, donc au régime nazi. Alors, on a regardé avec Charline un peu, mais il se trouve qu'il y en a 54 en France, des bénéficiaires de cette prime. Il y en a 573 en Pologne. C'est le record. Il y en a 101 en Autriche, il y en a 12 en Thaïlande. Non, mais c'est... Il y a une carte du monde.
Il y en a quelques-uns en Amérique du Sud, peut-être.
Alors, en Argentine, bizarrement, il y en a que 8, mais beaucoup avaient été condamnés pour crimes de guerre. Ce qui explique peut-être que, du coup, on s'attend à en voir beaucoup plus, en fait, en Amérique du Sud. Et s'ils ont déjà été condamnés pour crimes de guerre et que ceux-ci sont exclus de la prime, ça explique qu'ils ne rentrent pas dans les... dans la comptabilité. Ouais. Voilà. Mais c'est, on peut redessiner une carte du monde à la lumière de... Il y en a 4 en Namibie.
Ouais, d'accord.
Mais bon, moi, je trouve que toutes ces histoires de primes, c'est un petit peu aussi comme enfin, bon, je trouve ça délicat, moi, de me prononcer en tant qu'humoriste. Et d'une manière générale, moi, c'est vrai que j'ai pas un spectacle très militant, je suis pas beaucoup sur les questions politiques parce que je me sens pas légitime.
Vous avez pas d'avis sur les nazis, en plus. Enfin, pas forcément.
D'autant plus sur ces questions-là. Écoutez, messieurs, Maurice, je suis contente que vous me posiez la question.
Pour résumer, on dira quand même qu'on a été très choqués d'apprendre ça. Que ce soit, enfin, pas, voilà, dans toute l'Europe. Et que, non, mais il serait logique de les supprimer comme, directement.
Mais quoi, peut-être même de les supprimer directement, ces gens. Je pense que ce serait plus simple.
Donc, Antonia de Rindinger, c'est la nuance, vous l'avez compris.
Antonia dans toute la France. On y va avec des grosses bottes en cuir.
Comme Clara Dupont-Mono.
Oh là, oui, mais on reste dans l'actualité, Charline, puisque l'actualité, c'est que nous allons mourir. Un jour ou l'autre.
Oui,
non, mais parfois les breaking news ont des allures d'évidence, mais fatalement, même vous, Antonia de Rindinger, c'est bien ça, hein ?
C'est tout à fait comme ça.
Eh bien, je vous l'annonce, mais vous disparaîtrez. Alors, j'en suis personnellement désolée.
Mes enfants écoutent là, donc.
Non. Mais heureusement, mais justement, ils vont pouvoir prendre les références de ce livre, car la littérature a l'esprit pragmatique et du coup dédramatise un peu la situation. Et ce livre, justement, qui est formidable, s'appelle Autopsie des morts célèbres et il est signé d'un médecin qui s'appelle Philippe Charlier et de son compère David Alliot. Et ce livre s'appuie sur la paléopathologie. Alors, c'est une science qui n'a rien à voir avec Jean-Claude Gaudin, je vous arrête tout de suite, mais qui est la médecine légale appliquée à des cadavres anciens. On dit toujours comment vivaient nos ancêtres, mais en fait, on dit assez peu comment ils mouraient. Or, l'étude des cadavres, de cheveux, de microbes, de sépultures, souvent, en dit très long sur les rites, sur les mœurs de l'époque, sur les accidents ou sur les maladies. Je vous donne un exemple, c'est Frédéric Chopin. Pas le couturier, Guillaume Meurice, non, il m'a dit ça tout à l'heure. Non, le compositeur. Depuis toujours, on dit il est mort de tuberculose. Bon, alors, c'était très romantique de mourir de tuberculose au 19e siècle. Hein. Il y a une fascination littéraire pour cette infection de la poitrine. La Dame aux Camélias, l'héroïne du Lys dans la vallée de Balzac, Angélique dans le rêve d'Émile Zola, elles sont toutes tuberculeuses. Vous l'auriez été, Antonia de Rindinger, avec votre sublime patronyme
évidemment,
de comtesse, quand même.
De phtisie,
mais j'aurais adoré si vous aviez vécu au 19e siècle. Pâleur, dépérissement, souffle saccadé, panache.
C'est vrai qu'une bonne tuberculose, c'est quand même bien la classe.
C'est Antonia de Rindinger,
oui, sûr,
avec un prénom pareil.
La
et
syphilis,
pourtant,
c'est sympa aussi.
On mourrait pas de la syphilis dans ma famille, je peux vous dire.
Mauvaise pioche, disent les auteurs, puisque après examen des restes de Chopin, je cite, on suspecte qu'il est décédé d'une maladie génétique rare, la DAAT, déficit en alpha 1 antitrypsine. C'est une info, ça.
Ah bah ça, c'est une super info.
Voilà.
Non, mais est-ce que... sous le choc, quoi.
Non, mais est-ce que cette maladie était répandue? Avec quoi on la confondait? Quels étaient les symptômes? C'est là où on voit combien la paléontologie croise les savoirs, puisqu'elle mêle l'histoire, la microbiologie, l'anthropologie, ou la médecine. Et depuis 1849, donc date de sa mort, le cœur de Frédéric Chopin est conservé dans du cognac, dans une boîte en cristal, elle-même nichée dans le pilier d'une église de Varsovie. Bref, ce cœur est considéré un peu comme Charline et moi, c'est-à-dire un trésor national. Et évidemment que le fait qu'un organe devienne ainsi sacré, cela fait rêver Alex Vizorek, hein, qui,
j'espère ne pas vous l'apprendre, envisage qu'un de ses organes devienne trésor national. Pénis in peace, c'est donc la proposition d'épitaphe qu'il a fait à l'épiscopat de Paris.
Non, mais blague à part. Un gros pilier quand même. Voilà.
C'était fréquent de découper les corps façon puzzle pour les honorer. Ça faisait partie du savoir mourir qui est bien différent d'aujourd'hui. Et Philippe Charlier raconte l'incroyable morcellement du corps de Saint-Louis. Il s'écroule le 25 août 1270 au pied des remparts de Tunis. Et tout le monde veut son bout de Saint-Louis. Alors qu'est-ce qu'on fait? On trempe le corps dans du vin, et puis dans de l'eau de vie. Ensuite, on le fait bouillir avec des aromates pour séparer la chair des os. Et là, démarre l'ahurissant dépeçage du roi devenu confetti. C'est-à-dire que le nouveau roi de France, qui s'appelle Philippe le Bel, il prend le crâne, mais il donne un os à Notre-Dame de Paris. Il en distribue un peu aux chevaliers fidèles, genre t'as été sympa, je te donne un cubitus. C'est vraiment ça. Le roi de Norvège a demandé un doigt. Le pape exige une côte.
Il voulait pas un whisky d'abord.
Bravo.
Rigolo, merci. Ça c'est rigolo.
Merci de me porter dans cette lancée de cette chronique historique. Le roi de Bavière veut un os, n'importe lequel. Les jésuites aussi. Résultat, à la Révolution française, il reste deux phalanges et les entrailles. Tout au long du 19e siècle, vont être trimballés en Italie, en Autriche, aux États-Unis. Au passage, chacun en prend un petit bout. Et en 2011, les entrailles se stabilisent à Versailles. Donc c'est un peu fragment d'un discours tripal. Bon, il y a quantité d'autres cas dans ce livre passionnant. Personne ne me suit.
Mais les auditeurs, oui. Ça fait penser à ma grand-mère, parce qu'elle a un nom blanc pendant le titre de Saint-Louis.
Donc je vous donne les références. Autopsie des morts célèbres de Philippe Charlier et David Alliot est paru aux éditions Talendier. Il y a parfois, j'ai du mérite. Hein.
Merci, Clara, ah, pour les payer.
Non, non, c'est super intéressant.
Mais oui, c'est passionnant. Non, écoutez, mais avouez qu'il y a un moment, c'était un peu marrant.
Ouais.
Oui. Très.
Le en plus d'être intelligent.
Le dépeçage de Saint-Louis. Ouais.
Et c'est d'actu, surtout toujours le lien avec l'actu qui est toujours.
Non, mais ça donne très envie de le lire, Clara. Je sais que vous êtes arrivée au bureau en trépignant de vouloir le partager, ce livre, et ça s'est bien senti.
Oui, parce que c'est le genre de livre, on n'est pas obligé d'être calé. Pour se plonger dans le savoir historique et on apprend plein de choses.
Voilà, il ne faut pas avoir mangé avant, mais sinon c'est bien. 17h, on va en parler du lien entre la bouffe et les livres. Merci Clara, 17h53. Et Antonia de Rendinger est en notre compagnie. On va parler de McDonald's, justement, qui est devenu l'un des plus importants distributeurs de livres pour les enfants en France. Depuis 4 ans, la chaîne de fast-food propose des livres dans ses Happy Meals. C'est le livre ou le jouet. McDo a donc distribué déjà 44 millions de bouquins. Et parmi ces bouquins, il y a des livres signés Catherine Pancol ou Marc Lévy. Sachant cela, qu'est-ce qu'on dit quand on ouvre son Happy Meal?
Et c'est quoi qu'il y a dedans, là?
Ah, oh, bah ça, c'est fait avec tous les restes fromage. Alors on fait macérer ça avec du gras, et puis l'alcool de bois, pendant 2-3 saisons. Puis il y a les couennes aussi.
On sent bien le goût du gras, hein, ça passe pas inaperçu.
C'est quoi les petits feuilles blancs, non? Ça, c'est des verres. Ben oui, comme ça, il y a la viande aussi. Je suis végétarien.
Venez comme vous êtes. 17h53. Un extrait des Bronzés font du ski, bien sûr, de Patrice Lecomte. C'est un article que nous avons trouvé dans Paris Match aujourd'hui sur le patron de McDo France, qui est le deuxième pays où le McDo a le plus de succès après les États-Unis. Et ce patron a décidé de mettre des livres dans les Happy Meal où les parents ont le choix de soit donner le jouet, soit donner le livre. Est-ce que vous trouvez que ça, c'est une bonne nouvelle, vous, Antonia Drendinger?
Alors moi en général toute la malbouffe en règle générale je trouve que c'est pas une bonne nouvelle, donc c'est pas avant quand on allait au McDo on achetait juste de la merde, maintenant on achète de la merde avec un livre dedans. Et en plus de ça, quand on sait que c'est Catherine Pancol et Marc Lévy, on sait
c'est écrit spécialement pour les gosses.
Ouais
bien sûr.
Je sais pas, moi j'ai deux enfants, donc régulièrement elles me tannent pour qu'on achète ce genre de choses. Mais moi je suis pour l'interdiction totale des jouets d'une manière générale et de tout ce qui peut attirer l'enfant vers une consommation de ce type-là. Mmh. Enfin, moi je suis mariée avec un Chilien. Au Chili, maintenant il est interdit de mettre des jeux gratuits dans n'importe quel truc de malbouffe. Donc par exemple, il y a plus de Kinder Surprise, il y a plus au McDo, on peut plus distribuer d'objets gratuits, et sur les paquets de gâteaux ou de sucreries ou de n'importe quoi, c'est marqué en gros comme sur les paquets de clopes, haut en calories, haut en sucre, haut en matières grasses saturées, etc., parce qu'il y a un taux d'obésité qui a monté de façon fulgurante là-bas. Et moi je trouve ça très grave, en fait, que par exemple le gouvernement ait pas pris des mesures drastiques concernant le sucre quand on en avait la possibilité. Donc d'une manière générale, je trouve que tout ce qui peut attirer l'enfant, puis je trouve que c'est,
le livre comme alibi, ça,
ah ouais, moi je trouve ça vraiment grotesque.
Parce que eux, ils expliquent qu'ils ont sorti l'argument littéraire pour contrer les accusations, un peu de prise d'otage des enfants avec les jouets en plastique. Donc c'est eux, ils ont répondu avec les livres en fait.
Oui, mais d'une manière générale, il y a des marques de café qui vous vont dire, qui vont vous dire que c'est du café équitable, alors qu'ils font 0,03% de commerce équitable avec le café et que tout le reste c'est de l'exploitation. Moi, je trouve que s'acheter une conscience avec ce genre de manœuvre, je trouve ça un peu facile. Et moi, je pense que les menus des enfants devraient être au même prix que les autres menus et que il faudrait que les parents prennent surtout conscience du fait que c'est pas bon pour leurs enfants de les faire manger.
Puis voir son livre dans un Happy Meal, Clara Dubon Mono, vous, un de vos livres dans un Happy Meal, ça va pas être...
En même temps, non. Non, bah, ouais. Ils ont demandé à des écrivains en fait de réécrire.
Bien sûr.
Voilà, ils s'habillent un peu de ça, McDo, en disant on a demandé des œuvres un peu inédites aux écrivains qui réécrivent des textes pour vraiment accessibles aux enfants.
Oui, puis bon, de toute façon, après, moi, je pense que les enfants, enfin, on retrouve les jouets Happy Meal dans les vide-greniers, on va retrouver les livres dans les vide-greniers aussi. C'est voilà, c'est de la consommation en plus, c'est de la production de déchets en plus, parce que voilà, ces bouquins-là, ils sont un peu consommables aussi, hein. Et puis il y en a 12 par an, c'est pas non plus comme s'ils en produisaient un par semaine. Enfin, moi, je, d'une manière générale, je ne suis pas pour ce genre de consommation pour les enfants. Je crois qu'on
a bien compris. Vous avez été très complète sur ce sujet, Antonia. On a envie de jouer avec vous.
Vous connaissez peut-être l'émission, oui, c'est l'heure du sketch, évidemment. Et on s'est dit, elle fait bien les accents, elle fait bien les femmes qui s'occupent de gens un peu en difficulté. Alors pourquoi ne pas lui faire faire l'auxiliaire de vie de Abdelaziz Bouteflika, qui se représente en campagne. Évidemment, une campagne, c'est la com. Guillaume et Charline, vous êtes chargés de la com. Vous venez voir l'équipe Bouteflika pour voir si on est prêt pour cette nouvelle élection.
Bonjour madame, alors dites-moi comment va monsieur Bouteflika?
Eh bien vous le voyez bien, il est en pleine forme là.
Ah oui, je ne l'avais pas vu, d'accord. Monsieur le Président, vous allez bien?
Oui, oui, il est très content de vous voir.
Non mais pourquoi il ne le dit pas lui-même alors?
La pudeur, monsieur, le très pudique, vous savez.
Bien sûr, bien sûr.
Dites-moi, vous êtes sûr là qu'il est encore en vie?
Ah ben oui, ça c'est sûr.
Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Figurez-vous qu'hier, il a encore cligné des yeux deux fois quand même. Vous pouvez lui parler hein, si vous voulez.
Ah d'accord, ah, bonjour monsieur le Président.
Alors vous avez la pêche? Qu'est-ce qu'il a dit là?
Il a dit ouais, là j'ai la super pêche.
Là c'est quand même, on comprend pas bien ce qu'il raconte.
Ah bon?
Non mais c'est, parce que c'est vrai que c'est un petit peu
Vous savez, c'est un peu plus c'est un plus ça pour faire de la politique. Voilà, ça c'était son programme économique.
Ah bon? Non, parce que j'aurais juré qu'il a dit la même chose que tout à l'heure. Moi.
Mais non, mais faites-nous confiance quand même hein.
Ok, bah alors pour la campagne, on a plusieurs slogans à vous proposer.
Ouais, alors donc le premier c'est l'Algérie bouge encore.
Ouais, ben non, parce que du coup, à la réflexion, je suis pas sûr pour celui-là.
Oui, non, enfin, pourquoi ouais. Vous entendez quelque chose?
Non, rien.
Alors, on avait aussi pensé à on ira au bout des flics.
Ça c'est lui plé. Là, vous voyez, quand il est comme ça, c'est qu'il est plié de rire.
Ah oui, oui, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi sa chemise, elle est toute mouillée là? Mais il bave.
Non, mais c'est rien, c'est juste qu'il doit avoir un petit coat chaud quand même.
De chaud?
Ben oui, il revient de son footing, là.
D'un footing? Dans son état, là?
Mais oui, son état. Il a été obligé d'arrêter le triathlon. Il a dû en choisir qu'un seul des trois.
Ah ben
donc,
oui, bien sûr. Oui,
voilà, concernant les déplacements, vous souhaitez faire des meetings?
Ah non, pas de déplacements. Hein.
Oui, alors on avait pensé à ça. Et si on projetait un hologramme?
Ah, mais ça, c'est très bien, l'hologramme.
Oui, alors en revanche, on a besoin de la vidéo d'un ancien discours. Est-ce que vous en avez un?
Ah, attendez, je crois que je dois bien avoir quelque part une VHS.
Ah, une VHS?
Ben oui, il a plus fait du discours depuis 1999.
Ah mince, ouais. Bah du coup ça a pas collé niveau programme tout ça quoi.
Ouais mais si, parce que de toute façon il a pas non plus changé le programme depuis 1995 hein.
Ah là c'est son cœur qui s'est arrêté non c'est pas ça?
Non ça c'est un truc qui arrive de temps en temps, on tape dessus. Paf, et ça repart.
Ouais, c'est pas gagné
quand même hein. Merci beaucoup, Antonia de Randinger, qui est en tournée dans toute la France avec son spectacle. Moi, je merci aussi à vous tous, les amis. On va se retrouver demain avec Pierre Palmade. C'est la fin de cette émission. On laisse le mot de la fin à notre invité.
Mes enfants, bienvenue à tous à votre cours de SVT, Sciences et Vie de la Terre, certes, mais surtout, Sciences et Vie de la Teub.